Pop, popienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Parce qu'il faut savoir faire preuve de patience avec Jean-Pierre Jeunet, qui, à l'exception du petit dernier qu'il nous aura fallu attendre 9 ans, avait jusqu'alors l'habitude de pondre ses films, si je puis dire, et a considéré que Jean-Pierre soit une poule, bien sûr, ce que je n'ai jamais osé vérifier, avec une régularité quasi métronomique, une moyenne d'un film tous les 3-4 ans depuis 1991, son petit dernier, Big Bug, prouve une fois de plus que tout vient décidément à point à qui sait attendre. Mais comme il le dit si bien lui-même, il faut savoir qu'on a affaire ici à un artisan qui non seulement conçoit des univers parallèles et déjantés, mais aussi un névrosé du détail, un obsessionnel de la finition qui 100 fois remet le métier sur l'ouvrage avant de se décider à le lâcher sous l'œil impatient du public. Oui, sous ce dehors bonhomme et placide qui m'écoute poliment, gronde sourdement un volcan dont la lave créative ne demande qu'à jaillir et à rassasier tous les fans de la jeunesse touch. Ceux-là vont être comblés aujourd'hui puisque Jean-Pierre, vous l'aurez compris, est l'invité de Pop à Pop et comme il est bel homme, nous rebaptisons cette émission Jeunet Joli. Allez, Pop à Pop, c'est parti.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour Jean-Pierre Jeunet.
Bonjour Conde.
Ah, bonjour Conde, tiens, ça faisait longtemps ça. Ouais, bonjour Neige. Et bienvenue dans Pop Pop Pop.
Ben, c'est un plaisir à chaque fois.
Nous sommes en 2022, mais grâce à vous, nous avons le temps de l'émission. En tous les cas, nous allons partir en 2045 pour parler de votre film Big Bug qui arrive dans un futur très proche, lui, à savoir demain sur Netflix.
Yes, demain,
les informations sont bonnes.
Ils vont pousser un bouton et 550 millions de personnes sont capables de le voir.
Waouh.
Je vais tous les appeler un par un.
Waouh. Et vous qui revenez du futur pour nous parler d'un film, cela signifie donc qu'il y a encore des films en 2045 fabriqués par des humains. Donc il reste un peu d'espoir.
Ah ben j'espère, mais moi ça n'a pas été facile. C'est pour ça que 9 ans, oui. Ah, il faut dire aussi qu'avec Guillaume Laurent, on avait écrit un truc sur le sexe. L'homme qui aimait les femmes, mais aujourd'hui. Alors c'était peut-être pas le bon moment pour ça. On s'est dit ça passe ou ça casse, ça a cassé.
Bon, on va y revenir sur ce film en long, en large et en travers dans quelques instants. Mais ça veut dire que le pessimiste que vous êtes, au fond, que je connais, garde un soupçon d'optimisme. En 2045, on sera toujours là.
Ah ben, moi je pense que, en tout cas, là où on est optimiste, c'est qu'on dit que l'intelligence artificielle ne nous bouffera pas parce qu'ils seront trop cons, ils n'auront jamais le sens de l'humour, tout ça. Non, je pense comme Lévi-Strauss que l'être humain est capable de produire une toxine pour s'autodétruire et on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour disparaître nous-mêmes.
On va faire ça comme des grands.
Ouais, je pense qu'à suivre Zemmour, c'est bon.
Alors, petit retour en arrière, il y a 18 ans avec un long dimanche de fiançailles dont on a malheureusement reparlé il y a 2 semaines avec la tragique disparition de Gaspard Ulliel. Souvenir, gardez-vous de ce garçon qui semblait faire l'unanimité.
On était complices comme deux sales gosses. J'ai un souvenir marrant, je suis désolé, mais on est en Allemagne et il y a plein de chasseurs d'autographes, alors on en a un peu marre. Puis à un moment, un gars donne son appareil photo à Gaspard pour faire une photo de lui, le fan à côté de moi. Ouais. Et on se regarde avec Gaspard, on cligne des yeux, on fait un petit clin d'œil, il a zoomé que sur le mec. Et le mec courait après la voiture, tapait sur les vitres. Avec Gaspard, on riait comme des sales gosses. Voilà. Et à chaque fois que je le revoyais, on avait cette complicité malgré la différence d'âge.
Ouais. Oh.
Bah quand même un peu.
Oui, un petit peu, c'est vrai, mais enfin bon. Donc un bon souvenir de Gaspard Ulliel.
Ouais, c'était un mec tellement simple et talentueux, quoi.
Jean-Pierre, vous serez à tout jamais associé à cette petite musique. Bien sûr, Amélie Poulain, votre film qui a fait le tour du monde et grand écart sonore à celui-ci. Parce que vous êtes aussi le réalisateur d'Alien 4, La Résurrection. Mais comme je le disais, ça fait 9 ans, depuis l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, que nous attendons un de vos films. Alors pourquoi nous avoir fait attendre tout ce temps?
Alors déjà, j'ai fait un pilote pour Amazon sur Casanova.
Ouais.
C'était super beau, on a gagné un grand prix à Hollywood avec The Revenant. On l'a pas vu parce qu'à cette époque, Amazon soumettait les pilotes aux internautes. Les internautes disaient, mais c'est qui Casanova? C'est le roi de France. Oh, il n'y a pas que ces explosions. Enfin, ce genre-là. Donc, ils n'ont jamais fait la série, c'est jamais sorti.
D'accord.
Et pourtant, c'était bien beau.
Donc, vous avez perdu du temps.
Plus ce scénario qu'on a écrit pour rien avec Guillaume. Et puis, j'ai quand même fait beaucoup de pubs, un film d'animation. On a fait une grande expo au Caire au Genet. J'ai fait un petit bouquin de souvenirs sans anecdote de tournage. Mais c'est vrai que j'ai quand même. J'étais bien déçu, un peu déprimé de ne pas arriver à faire de film. Quand on a 3,5 millions, je crois, d'entrées en moyenne, si on fait le calcul, on se dit que ça devrait être facile. Ouais, non. Ouais. Parce que maintenant, le marketing a pris le pouvoir dans tous les domaines. Jean-Paul Gaultier ou Michel Troigros en cuisine vous diront exactement le même problème. Ouais. Des gens sortis d'école de commerce vous expliquent comment il faut faire. Ouais. Vous n'avez plus un interlocuteur en face pour expliquer le sujet. Non, vous avez des comités de lecture que vous ne rencontrez pas. Et si un rond ne rentre pas dans un cube, et mes films, j'ai entendu 3 fois les mêmes phrases, c'était Amélie Delicatessen et Big Bug récemment. Ouais. C'est trop bizarre, on ne comprend pas. Quand on ne sait pas comment on va le vendre, il ne peut pas y avoir des robots avec une comédie, ça ne marchera jamais, etc.
Mais c'est toute cette bizarrerie, nous, qu'on aime chez vous, Jean-Pierre. Et vous n'êtes pas seulement un réalisateur de cinéma, vous avez également réalisé des pubs et des clips, comme vous le disiez à l'instant. Je pense notamment à Tomber pour la France d'Étienne Daho, ou encore La fille au banilon de Julien Clerc. Et plus récemment, vous avez aussi réalisé le clip de Gauvin Serre pour sa chanson Pourvu. Et je vous propose de l'écouter pour commencer.
Eh bien, allons-y.
Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux, pourvu qu'il y ait pas un énorme blanc dès que je prononce intermittent, pourvu qu'elle prenne pas le premier train quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin, pourvu qu'elle me trouve pas couillon chaque fois que je cite le dîner de con, pourvu qu'elle connaisse Coq en stock et quelques jurons de ad hoc, pourvu qu'elle ait le sens de l'amour et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour, pourvu qu'elle digère bien les huîtres, pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre, pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Pourvu qu'elle lise les cartes Michelin, pourvu qu'on s'échange nos bouquins, pourvu qu'elle vole mon marque-page et qu'elle soit pas trop maquillage, pourvu qu'elle parle à mes copains pour que ça devienne ensuite les siens, pourvu que son père soit pas le sosie de Donald Trump, je vous en supplie, pourvu qu'elle sache qui est le prest, pourvu qu'elle vote pas pour la peste, pourvu qu'elle s'entoure d'une écharpe que je respire avant qu'elle parte, pourvu qu'elle ait l'alarme facile, pourvu que ce soit une cinéphile, pourvu qu'elle prenne tous les coussins comme il est touchant d'Aroussin, comme il est touchant d'Aroussin. Pourvu qu'elle soit le genre de compagne qui part sur les routes de campagne où deux voitures peuvent pas se croiser, les bottes de foin, les bottes aux pieds. Pourvu qu'elle soit aussi de celles qui pensent à remplir leur cervelle, qu'elle penche plutôt vers Modiano, qu'elle penche pas trop vers Morano. Pourvu qu'elle veuille beaucoup de gamins, c'est dingue d'avoir des si petites mains. Pourvu qu'elle se moque un peu de moi sur ma coupe au bol d'autrefois. Pourvu qu'elle pianote le matin la BO d'Amélie Poulain. Et pourvu qu'elle aime cette chanson autant que la voix de Gérard Darmon.
Gauvin Serre, pourvu dans Pop Pop Pop, c'est un morceau que nous venons d'écouter en compagnie de Jean-Pierre Jeunet qui en a réalisé le clip que vous pouvez aller voir sur YouTube ou où vous voulez. Jean-Pierre, comme je résiste difficilement aux calembours de qualité bien sûr, je vous propose un jeu. Connaissez-vous le jeu du « Je n'ai jamais » ?
Non !
Eh bien, je vous le propose. Le principe est simple. Je vous énonce les règles. Un joueur, disons moi, énonce la phrase qui commence par « je n'ai jamais » et raconte un acte qu'il n'a supposément jamais accompli. Tous les participants, alors disons vous, ayant déjà réalisé l'acte en question, doivent alors boire un shooter, y compris la personne ayant parlé, donc moi. Vous l'aurez compris, c'est un jeu d'alcool, mais pour des raisons évidentes, nous allons le faire avec des tasses de thé et nous allons rebaptiser ce jeu « je n'ai jamais ». Bon, d'accord. Alors, je prends les... Tiens,
j'ai d'abord... Déjà je... totalement oui, perdu. Oui,
je vous verse voilà, un petit café.
Voilà,
un petit
oui.
Thé, voilà. Ça, c'est pour vous. Voilà, je prends le mien. Et c'est parti. Alors, je vous pose les vraies questions du jeu. Hein. Par exemple, je n'ai jamais pleuré devant un film.
Alors, faux. C'est ça, il faut que je dise
vrai. Oui, faux, vrai.
Faut gagner. Puis, j'ai gagné.
Oui, non, et puis peut-être non, argumenter
oui,
un peu.
Argumenter oui, un peu, d'accord. Oui. Alors, la dernière fois, j'ai vraiment pleuré, c'était la leçon de piano. Mm-hmm. Et c'était pas parce que c'était tragique, c'était le talent. En fait, ce qui me fait chialer au cinéma, c'est le talent. Mm-hmm. Donc, la leçon de piano, Whiplash, mes deux grands coups de cœur, ouais. Où je finis, mais en eau, de sueur et de larmes. Je suis sous le siège et j'attends que les autres sortent dans le cinéma pour pas qu'ils me voient.
Très bien, je n'ai jamais mis de slip kangourou.
Alors, attendez que je regarde. Ah, mais c'est aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui,
oui, c'est exceptionnellement. Ah, il y a des caméras partout, je vais pas. Mm-hmm.
D'accord. Je n'ai jamais fait l'amour dans une salle de cinéma.
Eh non, ça, malheureusement.
Non, je vous crois. Je n'ai jamais dit du mal de mes concurrents.
Oh, j'adore ça. Oh, c'est trop bon. Alors, on va commencer par en alphabétique.
Non, vous êtes du genre à...
On dit que j'ai pas la langue dans ma poche.
Ouais. Oui. Elle est où alors?
Ouais.
Dans celle de vos concurrents. Je n'ai jamais été menotté.
Menotté?
Oui. C'est une question.
C'est bizarre, non? Non, je pense pas, non.
C'est des vraies
dans
questions.
Une autre vie, alors.
C'est des vraies questions du jeu. Hein.
Ouais, oui, oui, non, alors. Non.
Je n'ai jamais regretté une décision de carrière.
Bah si, Harry Potter par exemple. Ouais. Harry Potter, sur le coup, bah non. Et puis finalement après, bah oui, parce que j'aurais plus besoin de travailler, je me disais des fois. Et puis finalement non, parce qu'il faut pas avoir des regrets, parce qu'au moment où on a choisi, c'est que c'était le bon choix. Mmh. Donc non, je ne regrette rien, mais c'est ça par exemple, non, je ne regrette rien, c'est de la foutaise. Tout le monde a des regrets, forcément.
Ah oui, non mais écoutez, c'est la règle de ce petit jeu. Allez, une dernière pour la route, je n'ai jamais signé un autographe en mettant le mauvais nom.
Ah non, ça j'ai jamais fait ça. Non.
Vous pourriez.
Il y a des tentations. C'est Arthur Joffé qui avait fait ça avec un assistant. Lors d'une interview, ils avaient inversé les rôles. Moi, j'oserais pas, quand même. Pas très gentil.
Bon, c'est là que se termine le jeu. Alors, je crois que... Attends, je fais le compte. Oui, vous avez gagné très très largement. Alors, vous dites que vous ne vous reconnaissez dans aucun groupe, et pas seulement en matière de cinéma.
D'associations
de genre, ouais. D'associations.
C'était l'école, oui. Puis après c'était l'armée, puis après c'était le cinéma français, ça a été le cinéma américain, le cinéma d'animation. La seule endroit où je suis allé, c'est sur un plateau de cinéma. Où là, alors là, je sens une chaleur envahir mes veines. Mais sinon, non, je n'aime pas. Je milite dans aucune association. Tout ça, dès qu'il y a plus de 3 personnes, je suis pas à l'aise parce que je crois en l'individu, mais pas au.
Il y en a bien davantage dans les salles pour aller voir vos films, Jean-Pierre.
Oui, mais on les connaît pas. Ils sont dans le noir. Sauf si on se retourne pour voir leur tête, comme dans mon court-métrage Foutaise.
Vous dites que vous aimez le cinéma pour son côté bricolage. Merci pour ce son, Ghislain. Ghislain,
oui.
C'est notre réalisateur à nous.
Il fait bien, c'est bien. Hein,
ouais. Il le fait bien.
Auguste Renoir disait « Tout métier qui n'utilise pas ses mains est suspect ». Je confirme.
Alors, vous-même, vous allez jusqu'à dire « J'aime poncer, vernir, reponcer, revernir ». Ça n'empêche pas du tout de tout changer au dernier moment.
Ouais, c'est-à-dire, moi je suis un artisan. Je peux me comparer aussi à un chef qui prépare un petit plat, qui a besoin de l'aimer lui-même avant de le partager aux autres. Mm-hmm. Et je fais des petits animaux avec des choses trouvées dans la nature. Et on peut les voir dans un court-métrage qui s'appelle « Deux escargots s'en vont », d'après un poème de Prévert.
Bien sûr.
Et donc, on peut voir ça sur YouTube. « Deux escargots s'en vont ».
Et alors, ce côté bidouille ou « do it yourself », comme on dit sur YouTube, vous incitez les jeunes à le travailler. Je vous cite. « Quand j'ai commencé, il fallait une caméra de la pellicule. C'était compliqué, c'était cher. Maintenant, il y a des sons dans les téléphones qui viennent de chez Lucasfilm. Et avec un téléphone et un ordinateur, on pourrait presque passer en salle. Grâce à Internet, on peut se faire connaître quand on a du talent. » C'est un discours assez rare, ça, dans le monde du cinéma, quand même.
Après, le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de monde, puisque évidemment, plus c'est facile, plus il y a de gens. Au Festival de Clermont-Ferrand, autrefois, ils voyaient 500 films, maintenant, ils en sélectionnent 5000.
Ouais.
Donc voilà, c'est plus facile, mais il y a plus de monde. Mais la technique est devenue plus facile, mais ça n'empêche pas qu'il faut des idées. Mm-hmm. Ça se trouve pas sur Internet.
Mm-hmm. Mais vous encouragez tout le monde à se servir de ces nouveaux
outils. Souvent, les jeunes me disent qu'est-ce qu'il faut faire pour être metteur en scène, et je leur pose la question cruciale, tu veux être metteur en scène ou tu veux faire des films? Être ou faire? Voilà, pose-toi la question. Quoi.
Très bien. Jean-Pierre Jeunet, votre nouveau film s'appelle Big Bug, et nous allons en parler dans la suite de Pop avec Charline Roux qui nous rejoindra juste après avoir écouté Did You Say Such a Thing? C'est John Mellencamp avec un certain Bruce Springsteen.
Bad as the things that you've said, that you said.
Why did you say such a thing? On est à l'antenne de John Mellencamp avec un certain donc Bruce Springsteen dans les back vocals. Je vous expliquerai. Et c'est grâce au petit caillou qu'elle a semé hier en partant que Charline Roux a réussi à nous retrouver depuis sa Picardie natale. Bonjour Charline, le chemin n'était pas trop long? Big Bug, aidez-moi s'il vous plaît.
Bienvenue dans le futur, quoique le mot bienvenue me semble assez peu à propos.
Pardon. L'intelligence artificielle est partout et l'humanité tout entière, feignasse comme elle est devenue un peu dépendante. C'est le cas des habitants de ce petit quartier résidentiel dans lequel soudainement, quatre robots domestiques décident de retenir leur maître en otage dans leur propre maison. Quelles sont leurs motivations? Telle est la question, alors qu'à l'extérieur des robots nouvelle génération, les Ionix tentent de prendre le pouvoir. Jean-Pierre Jeunet, l'action de Big Bug se situe en 2045, soit 4 ans avant le Blade Runner de Denis Villeneuve, dans lequel les humains sont aussi en conflit avec leurs esclaves créés par bio-ingénierie. Big Bug, c'est le préquel Frenchie, ou alors le monde du cinéma veut nous alerter que dans une vingtaine d'années, ça va être très compliqué pour nous.
Non, pas forcément. Non. Nous, nos robots, on a décidé qu'ils resteraient très, très bêtes. Ils téléchargent le sens de l'humour et ils comprennent rien aux vannes. Non, franchement, l'intelligence artificielle, moi, j'y crois pas. Zuckerberg. Je l'entendais l'autre jour qui disait, on va implanter des trucs dans le cerveau humain pour qu'on puisse penser et voir le texte taper. On n'aura plus besoin de dicter. J'ai envie de lui dire, déjà, corrige les fautes sur Siri, quoi. Ça fera déjà du bien. Non, je pense qu'on n'a pas rien à craindre de ça. L'être humain est assez stupide pour s'autodétruire avant.
Ouais. Big Bug avec Elsa Zilberstein, Stéphane De Groot, Isabelle Nanty ou encore Youssef Hadji, ambiance.
Les citoyens n'ont pas à s'inquiéter. Vous constaterez l'efficacité de nos services.
Qu'est-ce qui lui prend? Il disjoncte complètement, là.
On va bien s'amuser ensemble.
Qu'est-ce qui se passe entre nous et...
Pour une réinitialisation, tapez 1. Pour une réclamation, tapez 2.
Oh, Nicolas, faut se calmer ! Ma petite Jennifer !
Et j'ai bien dit Youssef HD, moi aussi je bug de temps en temps.
C'est marrant une bande-annonce à la radio. À la télé, il devrait les passer sans le son.
Ouais, c'est pas mal, hein? Non, c'est pas mal. Non, moi, j'aime, sans blague, j'aime bien les bandes-annonces radio.
Oui, d'accord. Ouais. On imagine comme ça. Ça doit
bah oui,
d'aller la voir sur YouTube. Allez voir, allez voir.
Allez la voir sur YouTube, mais maintenant on
les
va vous expliquer.
Les images sont pas trop mal.
Alors, Jean-Pierre Genet, vous aviez envie d'aborder le sujet de l'intelligence artificielle, mais sous l'angle de la comédie, ou plutôt de la farce dystopique. C'est assez rare en France, hein, suffisamment rare pour faire fuir les producteurs. Ça veut dire ça, ces années qui nous séparent de votre film précédent.
Oui. Alors, ouais. J'ai fait le tour de tout le cinéma français.
Et tout le monde a dit non,
fait jeter de partout. Ben, ils comprenaient pas. C'est un peu comme mettre des ronds dans des triangles à la maternelle. Ouais. S'il y a des robots, c'est pas une comédie. Ouais. S'il y a une comédie, il y a pas de robots et voilà.
Mais ça vous est souvent arrivé, ça.
Oui, à chaque fois qu'on se pointe avec quelque chose d'original, comme Amélie ou Délicatessen, ça prend des années, les gens ne comprennent pas. Par contre, dès que vous avez fait un succès, c'est bizarre, vous pouvez leur apporter 4 pages d'annuaire, ça marche. C'est étrange, hein. Oui. Et alors, après 3 ans, j'avais fini par renoncer. Et un jour, un monsieur de Netflix qui avait distribué Amélie à l'époque m'écrit en me disant « Vous auriez pas quelque chose ?» J'ai dit « Oui, j'ai un truc, mais à part Brigitte Bastiani du GC qui s'y intéresse et autour d'elle, personne s'y intéresse, et ben personne n'en veut. Alors, vous allez pas aimer. » Il me dit « Envoyez quand même. » Le lendemain, c'était greenlighté. Mm-hmm. C'est-à-dire, il a trouvé ça génial et on y allait. Le lendemain, 24 heures.
Ouais.
Après 3 ans, perdu avec les Français. Mm-hmm. Ben oui.
Dans Big Bang, les robots domestiques veulent ressembler aux humains, alors moyennement pour le meilleur, souvent pour le pire. Forcément, leurs modèles sont particulièrement tordus, faut bien le dire, et bien souvent dirigés par leurs pulsions. On est toujours puni par où on a péché.
C'est compliqué ça.
Comme vous y allez, Charlie.
Non, mais ils voudraient tant. Alors, ils entendent des phrases. À un moment, on avait voulu, puis on l'a pas fait ça. Les voir regarder des émissions ou des extraits de films et essayer de les reproduire. Ça aurait pu être drôle, mais ça devenait compliqué au niveau des droits, voilà. Mais
comment que ça a été des films à vous?
Ah oui, pourquoi pas. Oui, mais on s'en a fait un peu autocitation.
Oui, bah, bah, j'ai écrit, quoi.
Non, mais on s'est inspiré de tous les clichés des robots. Il y a le robot sexuel qui vient un peu de AI, de Jude Law dans AI. Ouais. Il y a un peu Wall-E qu'on adore parce que nous on a des robots mécaniques et des robots joués par des acteurs. Il y a le classique des Marvel, tout ça, qui est joué par François Levental dans une espèce de carapace.
Terrifiante.
Le petit robot jouet qu'on a tous eu sur l'étagère. Et puis le robot ménager. Qui est joué par Claude Perron, qui vient un peu de Real Humans, la série, si vous voyez.
Ah ouais,
absolument.
Est-ce que j'en oublie? Je pense pas. Et puis le robot sexuel, j'en ai parlé. Bah oui, voilà, c'est ça.
Ces robots qui ambitionnent de ressembler aux humains, si on remonte en l'an de grâce 1997, on en trouve un dans votre filmo, Annalie Cole, dans Alien Resurrection. Alors certes, ces problématiques sont différentes, mais est-ce qu'on peut dater avec ou sans carbone votre intérêt pour la question à ce moment-là?
Bah, c'est pas moi qui l'avais écrit, Alien. Hein, mais il y a un truc très bizarre quand même, c'est que même quand j'ai pas écrit un scénario, c'est quand même le même thème qui est celui du petit pousset. J'ai découvert ça.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est un gamin dans sa tête qui lutte contre un monstre et qui utilise son imaginaire pour s'en sortir. Ce qui est un peu mon histoire. Moi, je travaillais au PTT, j'ai installé des centres téléphoniques dans l'Est de la France. J'étais pas du tout prédestiné au cinéma et j'ai jeté mes petits cailloux, je m'en suis sorti grâce à mon imagination.
Mais je vous pose la question parce que ce personnage qui est incarné par Winona Ryder, je trouve que dans ce film, il y avait quelque chose de terriblement jeunet.
Et enfantin aussi.
Ouais.
Et le monstre, à chaque fois, là, c'était des aliens baveux, c'était des vrais monstres. Mais vous savez, j'ai failli faire l'histoire de Pi, qui était aussi l'histoire d'un enfant contre un monstre, qui était un tigre. Ouais. Alors parfois, le monstre est abstrait, comme l'introversion pour Amélie ou la mort pour Mathilde dans le dimanche de fiançailles. Mais à chaque fois, c'est ça, le boucher de Délicatessen, le Daniel Émile Fork dans La Cité, etc.
Dès les premières images, on sait qu'on est dans un film de Jean-Pierre Genet, et non pas au hasard de Benoît Jacquot. Le traitement de la couleur, le cadre, les focales, la lumière, la direction d'acteur, votre patte est immédiatement identifiable, Jean-Pierre. Comment est-ce que vous définiriez ce style, si toutefois il
Pouvait être défini? Un peu d'humour bizarre, un peu de couleur chaude, un peu de focale courte, l'influence du cartoon, de l'animation, l'influence de Sergio Leone, voilà, tout ça remixé, mélangé sûrement avec d'autres choses. Et moi j'aime bien les cinéastes qui ont un style qu'on reconnaît. Alors sûrement qu'on l'a plus vite. Il y a un moment, on en a marre un peu de voir du Tim Burton ou du Genet. On entend, oh, vous faites toujours le même film. Ben oui. Et il y a d'autres cinéastes très talentueux qu'on pourrait citer, par exemple Ang Lee ou Polanski, qui n'ont pas un style immédiatement reconnaissable, mais qui sont des grands cinéastes quand même.
Ang Lee qui a repris le fameux Pi dont vous parliez.
Voilà. Il lasse peut-être moins ceux-là parce qu'ils se renouvellent plus. Mais je m'en fous. Moi, j'adore les cinéastes dont on reconnaît le style au bout de 30 secondes.
Puisqu'il est question de style, Big Bug est résolument rétro-futuriste. On est en 2045, mais la décoration du pavillon est très, très 50s, rond, coloré. On ne serait pas étonné de trouver un placard en formica dans la cuisine. Une déco en contraste parfait avec le tout automatisé de la maison. Qu'est-ce que ça raconte de nous, cette distorsion?
Quitte à créer un univers, il vaut mieux que ça nous plaise à nous. Moi, j'adore par exemple le Bauhaus. en architecture. Mmh. J'adore l'art déco, j'adore les immeubles de Miami, voilà. Donc j'ai fait des recherches, j'ai envoyé toutes ces références à ma décoratrice, Aline Bonetto, et on s'est amusé à faire l'intérieur, l'extérieur, avec les hublots, avec les meubles, un peu le côté un peu années, des arrondis des années 50, le côté, voilà. Et tant pis, c'est pas grave, parce que finalement, on réutilise tout le temps, la mode réutilise, que ce soit pour les costumes ou pour le décor, on réutilise tout le temps les mêmes choses. Mmh. Donc l'idée, c'était surtout que ça soit beau et crédible.
On l'a bien compris depuis le début de cette émission, l'expression intelligence artificielle vous agace, l'intelligence artificielle d'ailleurs tout court vous agace, vous en avez bien perçu les limites. Est-ce que en revanche vous croyez à une possible revanche des robots le jour où ils auront compris qu'ils sont aussi cons que nous?
Ah, ouais. C'est pas impossible. Notre Ionix, nous, en fait, je dirais que c'est plus une caricature de l'administration. Le Ionix, c'est le méchant dans notre film.
Parce que il applique le règlement, lui.
Ouais, voilà. Ouais, j'ai une anecdote qui est fantastique que j'ai placée dans le film, c'est qu'un jour, je déménage, j'appelle France Télécom, ils me disent oui, on va vous donner un nouveau numéro, monsieur Genet, c'est pas la peine de vous déplacer parce qu'il pleut. Donc je veux le R2, le transfert de ligne, et puis ceci, l'aide sur liste rouge, tout ça. Il me dit voilà, monsieur Genet, vous avez un nouveau numéro. Alors je dis c'est quoi? Ah ben je peux pas vous le donner, vous êtes sur liste rouge. Histoire vraie.
C'est ça qui est dans le film.
Et elle est dans le film. Ouais. Et ça fait rire tout le monde. Je l'ai vécu, j'ai dû prendre mon scooter et aller sous la pluie chercher mon nouveau numéro. Voilà.
Des histoires comme ça, il y en a plein dans Big Bug, le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet qui est à découvrir dès demain dans Netflix. On va continuer à en reparler dans un instant, mais là je vois qu'il est déjà 16h30, ça veut dire que c'est le moment du pop break dans Pop, les Pop News.
Une première bande-annonce pour un drôle d'objet, Studio 666, un film de Beji McDonnell écrit par Dave Grohl et incarné par les Foo Fighters en personne. Le légendaire groupe s'installe dans un manoir pour enregistrer leur très attendu 10e album, mais il semblerait que le dit manoir ait quelques fâcheux effets sur ce bon vieux Dave.
How are you feeling? Everything okay?
Ever since we moved into this house, my mind is flooded.
We all have writer's block.
This is not just a creepy rock and roll house. It allows spiritual entities to cross into our world.
Dave Grohl possédait un groupe maltraité, Studio 666, c'est une comédie d'épouvante, ça sort le 25 février dans les cinémas américains et les dates pour l'Europe devraient être prochainement annoncées, tous les détails sur le site officiel des Foo Fighters.
Alors ma petite Charline, je vous le dis en toute amitié, mais cette passion folle pour Dave Grohl, ça commence à se voir. Hein.
Pardon, on a joué quoi il y a un instant? Bruce, comment autre chose,
Springsteen. Encore un nouveau titre pour Father John Misty après le très beau Funny Girl qu'on vous a fait écouter ici. Place à Q4, tout aussi joli. Q4 à retrouver tout comme Funny Girl sur le prochain album de Father John Misty, Chloe and the Next 20th Century, qui sortira le 8 avril.
Dans la série Severance, produite et réalisée par Ben Stiller, les employés de l'entreprise Lumen acceptent tous de subir une opération de dissociation. On sépare les souvenirs professionnels des employés de leurs souvenirs privés. Ainsi, quand ils sont au bureau, ils ne sont que des employés. Une fois chez eux, le boulot et ses souvenirs ne peuvent pas les perturber. Mais Marc, l'un des employés, est convoqué pour une grande nouvelle qui va tout enrayer.
Pity ne fait plus partie de cette entreprise.
Je suis désolé, Marc. Votre amitié entre collègues me touchait beaucoup.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On aimerait vous répondre, mais c'est interdit par notre politique de confidentialité.
J'ai le plaisir de vous accorder de servir en tant que chef du département. Toutes mes félicitations.
On s'est déjà vu? Je m'appelle Pity, je bossais avec toi.
Je suis ton meilleur ami. Il n'y a rien qui soit vrai dans ce qu'ils disent. Je me disais qu'il fallait être un monstre pour envoyer quelqu'un travailler là-bas. Si tu veux savoir ce qui se passe là-bas, tu y trouveras le début d'une très longue réponse.
Au casting, Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken, Severance, ça arrive sur Apple TV le 18 février.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Un oui. Hélicoptère?
Non, je suis l'effet spécial des bandes-annonces.
Ah
oui. Enfin bon. Merci Charlie.
Avant les masques, on pouvait faire des pop, mais
ouais,
c'est plus dur.
Maintenant, c'est plus difficile. Ouais, ouais, si je me mets le doigt dans la bouche à cœur. Ça fait mal. Bon, merci Charline, Jean-Pierre Jeunet. Retournons dans votre univers pour parler de votre nouveau film Big Bug qui arrive sur Netflix demain.
Dans Big Bug, il y a ces robots domestiques, mais la plus grande menace vient de l'extérieur, les Yonix, ces robots aux ambitions dictatoriales, aux méthodes que je qualifierais de musclées. Ils incarnent une forme de totalitarisme, l'obsession de la sécurité, et évidemment, la première chose à éliminer pour eux, ce sont les livres. Alors, à problématique nouvelle, vieille méthode ?
Oui, c'était un peu évoqué dans Fahrenheit 451, si je ne m'abuse. Pas que les livres, tout ce qui dépasse, ils sont pas très très fufutes.
Et deux fois que vous me citez Truffaut depuis le début de l'émission.
C'est vrai ?
Ah oui.
Ah bon ? J'adore ces trois premiers films. Tirer sur le pianiste, Fahrenheit. Les 400 coups. Et non, pas
non, Fahrenheit, après, 15 ans après.
Claude Perron, Alban Lenoir et François Levental incarnent ou désincarnent les différents robots. Comment est-ce que vous les avez dirigés ?
Alors ça, c'était beaucoup, beaucoup de répétitions. Il faut chercher. La première fois, Alban s'est pointé, il faisait le séducteur, c'était n'importe quoi. J'ai dit, pas ça du tout, Alban, on repart à zéro. Et puis, c'est en cherchant. Lui, c'est un grand bosseur. Mmh. C'est un gamin que j'ai fait débuter à 16 ans. Et je l'avais pris sur une pub et il dormait toute la journée. Je lui ai dit, t'étais content ? Mais oui, monsieur, j'étais tellement impressionné, j'ai rien dormi de la nuit. C'était touchant. Et j'aurais jamais misé un copec sur lui. Hein. Et il est devenu un super acteur, super pro. Magnifique. À un moment, il est mort dans le film. Je dévoile un peu le truc. Et il est venu faire le cadavre pendant 3 jours, alors qu'on avait un mannequin quand même.
Ah,
alors qu'on voyait que ses jambes. C'est le genre là, Alban Lenoir. Ouais.
Ah, oui,
et Claude Perron et Levental, on a cherché, répéter, on regardait ensemble les images, je disais ça marche pas. Avec Perron, par exemple, elle a déterminé 7 ou 8 sentiments, émotions, parce que c'est un robot, elle est limitée. Et on disait dans le scénario, alors là tu fais le 4B, là tu fais le 5, là tu fais le 6, vous voyez. Après, pareil pour le sound design, c'était délicat, parce qu'on sait très bien que c'est des acteurs. Alors est-ce qu'il faut tout bruiter, que ça bouge ou pas. Et au départ, on faisait trop, puis on s'est rendu compte que c'était ridicule. Donc c'était un travail considérable de détails.
Alors on parlait de comédie avec ce film. Et ça joue la comédie à la vitesse d'une pièce de Feydeau, avec un cocktail d'acteurs réglés au millimètre et devenant tous de plus en plus cinglés au fur et à mesure que l'histoire avance. C'est un casting qui s'est organisé naturellement, ça, de Gros, Elsa.
Je sais jamais vraiment naturel.
Ouais.
Non, il y a eu quelques grandes stars qui ont renoncé. Serait-ce parce que c'est un film choral, serait-ce parce que l'idée de jouer un robot sexuel est peut-être pas évidente, mais il y a eu quelques. Et finalement, tant mieux, parce que du coup, j'ai eu les acteurs idéaux.
Absolument. Un de vos personnages, l'ado, interprété par Elie Tonna, traduit tout ce qu'on lui dit, ou presque, dans son improbable dialecte de jeune futuristico-texto. Il est d'ailleurs assez séduit par les discours un peu fascisants des robots. Est-ce que c'est par le langage qu'on risque d'abord d'être décérébré, à votre avis, Jean-Pierre ?
Le langage, alors, on s'est franchement inspiré d'un petit film que j'ai vu 14 fois en salle, d'un certain Stanley Kubrick, qui s'appelait Orange Mécanique.
Ouais.
Voilà. Après lui, il est franchement influencé par un truc qui existe, qui s'appelle l'université de la singularité, c'est-à-dire le transhumanisme. Ce sont des gens qui ont pignon sur rue, ils sont en face de chez Apple et de chez Google, et qui font venir les gens les plus intelligents de la planète avec l'idée quand même de faire évoluer notre cerveau électroniquement. De tout ça dans le but, évidemment, d'être plus compétitif et donc de faire plus de profit, évidemment. Mais ils sont un peu frappés, quand même. Ils ont vraiment l'idée de mettre toute notre mémoire dans un disque dur. Donc c'est pour ça que la gamine dit au gamin, mais comment tu feras pour embrasser les filles quand tu seras dans un disque dur? Ce qui est une bonne question.
Ce langage ou ce verbiage, parfois techno-hip, parfois techno-école de commerce, où est-ce que vous l'avez entendu? On s'est demandé si c'était pas un langage que vous entendiez en comité de lecture, par exemple.
Mais il y a un truc qui s'appelle Internet qui a changé notre vie à nous scénaristes. Autrefois, je prenais mon scooter, j'allais à la FNAC chercher dans des bouquins. Maintenant, en un clic, on a toutes les réponses. C'est tellement génial.
La société qu'on devine au-delà des murs de cette maison semble n'être que l'ultime conséquence de notre société actuelle. Les publicités sont si personnalisées. Par exemple, elles s'adressent directement aux individus à l'instant où ils pourraient avoir besoin de quelque chose et même un peu avant. C'est une société de l'algorithme que vous nous annoncez ou on y est déjà un peu?
Bon, on y est déjà, mais on l'a caricaturé. Moi, j'aime beaucoup Blade Runner, c'est un de mes films préférés. Je le regarde comme on met une vieille paire de chaussons dans lequel on est confortable. Et dans Blade Runner, il y avait le gros drone, le dirigeable publicitaire. Donc là, on l'a parodié en plus petit, mais simplement, à chaque fois qu'il y a un problème dans la maison, poum, il est là, et il vous propose une solution à votre problème. Donc la petite femme qui est à l'intérieur est totalement irritante, et on est ravis à la fin comment ça finit, pour elle.
On le dira pas ici. Le film est donc un huis clos étouffant au sens propre, puisqu'il y a de sérieux problèmes de climatisation. Vous dites que c'est pour une question de budget, mais on voit bien surtout que la caméra s'amuse beaucoup à régler les défis de cet espace clos. Est-ce que vous avez révisé pour l'occasion vos films de huis clos, en préparant Big Bug? En commençant par Delicatessen peut-être.
Non, je me suis inspiré de deux films surtout. C'était Marie-Octobre de Duvivier, qui est un cinéaste génial que j'adore, encore, presque autant que Marcel Carnet. Et le deuxième, c'était The Servante de Joseph Losey avec Dirk Bogarde. Et j'ai appris beaucoup. Et j'avais imaginé que souvent les acteurs pourraient faire face à la caméra, c'est-à-dire parler à quelqu'un qui est dans le dos. Et tout d'un coup, j'ai découvert que Losey avait fait ça avant moi. Ça m'a énervé et en même temps rassuré, parce que ça marche très bien. Et par exemple, si je voulais faire un gros plan, c'est l'acteur qui venait près de la caméra qui repartait. Donc j'ai imaginé une fluidité de caméra pour éviter de tourner comme de la télé, plan large, plan moyen, gros plan. Et je me suis vraiment cassé la tête. Je travaillais tous les week-ends avec des doublures. Et j'ai jamais, jamais autant travaillé que pour ce film-là. C'était très compliqué. Après, quand ils étaient dans les chambres, c'était beaucoup plus facile. C'était plus traditionnel.
Et quand Jean-Pierre Jeunet dit ça, lui qui est un obsessionnel absolu, je peux vous dire que ça a dû être gratiné.
J'étais réveillé tous les matins à 4h en me disant ça marche pas. Je l'ai déjà fait, il faut que je trouve autre chose.
Mais vous dites d'ailleurs que jamais un de vos scénarios n'a été autant modifié de tournage. Ça tient justement au dispositif de tournage?
Oui, parce que c'est quand même limité un lieu clos. Donc si on veut se renouveler ou pas se répéter, ça veut dire qu'il faut être sans cesse inventif et sans cesse réactif. Donc oui, j'ai trouvé plein d'idées sur le coup.
C'est un huis clos, mais truffé de petites apparitions de vos amis, des caméos, hein, comme on dit, notamment de votre fidèle ami Dominique Pinon, ou encore d'Albert Dupontel, qui a des ennuis avec son bras robotique, de très gros ennuis même. Ouais. Au-delà du clin d'œil, on sent que c'est aussi le moyen pour vous de garder, de conserver autour de vous cette bande de potes, de ce métier, ce que vous pratiquez, Jean-Pierre sans les amis, ça serait impossible.
C'est pas que les amis, en plus, pour les acteurs, moi j'adore les rôles de composition. Moi qui adore les films de Carné-Prévert, à l'époque il y avait les Jules Berry, les Saturnin Fable, les Louis Jouvet, tout ça. J'essaie de trouver l'équivalent aujourd'hui, les Nicolas Marié, les Dupontel, etc. Donc c'est un plaisir à chaque fois renouvelé de les avoir dans son film, quoi.
Et vous avez d'ailleurs salué l'indéfectible soutien d'Isabelle Nanty sur ce projet.
Oui, parce que au moment où j'y croyais plus, je me souviens avoir dîné à la Mascotte à Montmartre et elle m'a dit « On va le faire Jean-Pierre, il faut qu'on y arrive, on va t'aider, on va te soutenir, tu peux pas ne pas le faire ». Et ça m'a motivé, m'a motivé vraiment, elle est dans le film, elle est super.
Jean-Pierre Jeunet, avant de mourir, Alain Corneau vous a dit « Tu verras, plus tu vieilliras, plus tu auras peur à la sortie de tes films ». Dans quel état d'esprit êtes-vous à J-1? Une sortie sur une plateforme vous rend-elle aussi nerveux qu'une sortie en salle?
Eh ben non, c'est ça qui est génial. C'est qu'il n'y a pas le verdict du ciné-léal à 10h du matin où on vous dit « Vous avez 152 spectateurs, c'est un désastre » ou un succès. Là, il n'y a pas cette angoisse. Moi, j'ai quand même vécu le meilleur et le pire. Quand Michael Jackson a le mauvais goût de mourir juste à la sortie de Micmac et que son film, enfin le film sur son histoire, This Is It, vous éjecte des grandes salles, vous vous retrouvez dans les salles de 200 places et le film est mort. C'est un peu frustrant. T.S. Pivette aussi, la semaine d'après, sort Gravity, on vous pique toutes les salles 3D. Et ben là, il n'y a pas de problème. Vendredi, quelqu'un va appuyer sur un bouton et il y a 550 millions de personnes qui risquent de le voir. Je ne sais pas combien vont le voir, mais si c'est 1%, ça fait déjà 5,5 millions, ce qui est énorme. Et après, pendant toute la vie, je pourrais dire aux gens, vous ne l'avez pas vu, mais il est sur Netflix.
Il est sur Netflix.
Je pourrais même dire, mais c'est un énorme succès, vous n'êtes pas au courant, allez vérifier.
Eh bien, c'est planétaire le succès que l'on vous souhaite ici. Big Bug, c'est le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet à découvrir dès demain sur Netflix. Et nous allons en reparler dans un instant, mais entre-temps, on va approcher un petit peu votre univers pop, Jean-Pierre. Ça va donner ça.
Un cavalier qui surgit lors de la nuit.
Vous avez un cheval pour moi?
Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées.
Bon, alors c'est du fait maison, hein. Ça veut dire que nous allons parler de Jacques Dutronc, du film Il était une fois dans l'Ouest, de Don Diego de la Vega, de Jacques Prévert et de pop culture. Tout ça, ce sera après un morceau de Rosalia avec The Weeknd qui s'appelle La Fama.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad.
celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca. Y como ya viene, se te va.
Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.
La fama, c'est signé de l'artiste espagnole Rosalía, ici avec The Weeknd. Et cet extrait de l'album Motor Mami. Vous écoutez Pop Pop Pop.
Moto
Mami, pardon. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon.
Ga, bu, zo et me.
Ce gabusomeux, il vient évidemment des Shadocks, et c'est ce son qui vous évoque la pop culture, Jean-Pierre Jeunet.
Mais oui.
Et pourquoi donc?
Alors, les Shadocks, pour moi, ça a été une révélation. J'étais adolescent, et j'enregistrais, parce qu'on n'avait pas de magnétoscope à l'époque, j'enregistrais le son avec un petit micro tendu vers la télé, la pâté Marconi de mes parents. Et peut-être je les ai encore sur une bande quelque part. C'était tellement génial. Plus tard, j'ai fait un livre sur eux, sur Jacques Roxel et les Shadocks. Mais à l'époque, ça m'éclatait.
La voix de Claude Pieplu.
Mais oui, j'ai tourné un petit truc avec lui.
Alors continuons de faire gabusomeux ensemble, Jean-Pierre, puisque c'est l'heure de votre pop liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Le livre que vous nous conseillez de lire, c'est Paroles de Jacques Prévert. Charline, pourquoi ce livre devrait-il figurer sur toutes les tables de nuit?
Parce que c'est un recueil de merveilleux textes, sans ponctuation ni style défini, de la pure poésie allant de la lessive à Je suis comme je suis, en passant par Chansons des escargots qui vont à l'enterrement, La rue de Bussy maintenant, La brouette ou Les grandes inventions, ou encore Pour faire le portrait d'un oiseau. Et pour mémoire, je vous rappelle, il faut peindre d'abord une cage avec une porte ouverte.
Paroles et paroles et paroles, et toujours les paroles, comme disait bien Dalida, Delon.
Il y a certains poèmes de Prévert, moi, qui systématiquement me foutent la chiale. Et je ne peux pas faire autrement, quoi. Ça marche à chaque fois, à tel point que si j'ai un moment, j'ai le cœur un peu gros et tout, pour évacuer, je m'en fais un petit Prévert, et hop, ça sort, quoi.
Vous avez compris pourquoi?
Non, je ne sais pas, c'est l'immense simplicité des mots, le côté visuel. Je ne sais pas, je m'imagine, élève à l'école, écrivant des poèmes comme ça et pâter la classe en les lisant.
Donc avis aux acteurs, si vous voulez faire pleurer votre réalisateur, c'est donc La leçon de piano, c'est Whiplash et c'est Jacques Prévert.
Voilà,
intéressant.
Voilà, vous venez avec le petit cocktail au casting et ça devrait marcher. C'era una volta il West, plus connu sous le nom de Il était une fois dans l'Ouest, est le film que vous nous conseillez, Jean-Pierre Jeunet. Charline, rappelons que le titre belge est Il était dans l'Ouest une fois, et rappelez-nous ce qui s'y passait.
Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Beth McCain est tuée avec ses trois enfants. Jill McBain hérite alors des terres de son mari, terre que convoite Morton, le commanditaire du crime.
Vous avez un cheval pour moi? Eh ben, question chevaux. On est un peu juste, on s'excuse. J'en vois deux qui ne sont à personne.
Alors,
Jean-Pierre Jeunet.
Les deux films cultes de ma jeunesse, je ne peux les voir qu'en français. Je ne supporte pas d'habitude les films doublés, mais ceux-là, je les ai tellement aimés, tellement vus quand j'étais ado en français que je ne peux les revoir qu'en français. Orange Mécanique passé l'autre jour à la télé, j'ai mis la version française.
Attendez, vous n'avez jamais
vu. Pâtes et ce vin, reprenez-en.
Vous voyez?
Vous n'avez jamais vu, il était une fois dans
le je les ai regardés, mais c'est pas bien. C'est
comment
moins
ça,
bien.
C'est pas bien?
Mais c'est moins bien parce que je les ai aimés, je les ai découverts comme ça, quoi.
Et alors pourquoi avez-vous voulu nous emmener à Flagstone? Cette ville
alors, je l'ai découvert, j'avais 17 ans, au Sable d'Olonne, je me souviens, avec des copies toutes rouillées, parce que ça coûtait pas cher. Et là, alors, je l'ai raconté ça 100 000 fois, mais j'ai pas pu parler pendant 3 jours. J'étais en état de choc. Le cinéma, ça pouvait être un gros plan sur les yeux de Charles Bronson, ça pouvait être des bruitages incroyables, ça pouvait être les focales courtes, les longs manteaux, la musique et tout ça. J'étais tétanisé, et mes parents, à tel point, me disaient, mais qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Je dis, non, vous ne pouvez pas comprendre. C'était fantastique. Et alors, quand il est sorti en DVD des années après, j'étais terrifié en me disant, est-ce que je vais encore l'aimer? Et oui, je pleurais au même moment, quand le petit garçon sort de la maison et que la musique pète à ce moment-là, avec Henri Fonda et ses yeux bleus, mais c'est extraordinaire. Je ne parle pas du mouvement de caméra qui monte au-dessus de la gare, avec Claudia Cardinale qui s'éloigne dans le village de Western.
C'est... Mais là, on est d'accord que c'est un film comme ça, les Léon, 70 mm sur écran, panneau, c'est... Sur une télé, c'est quand même ça.
Alors, faut s'approcher très très proche de la télé. Ouais, faites tout près. J'avais cité aussi parce que j'aime beaucoup Jean de Florette, Manon des Sources aussi, que je vois tous les ans. Ouais. C'est un fantastique scénario parce que quand même, je ne vais pas dévoiler parce que certains ne l'ont pas vu, mais 3 mots à la fin font basculer 4 heures de film quand même.
On ne les dira pas ici. Non. Votre série ou plutôt votre personnage culte, c'est celui-là.
Un cavalier qui surgit lors de la nuit.
Bien le plus bel homme qui ait jamais existé.
Il n'y en a pas de plus brave et de plus élégant. C'est à hors la loi.
Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Bazette qui veut dire Zorro.
Zorro, donc le renard rusé qui fait sa loi et un malheureux qui lui aussi avait son Garcia. Charline, Zorro est éternel.
Alors éternel, je sais pas, mais drôlement bien habillé, que ce soit au civil sous l'identité de Don Diego de la Vega avec ses boots qui claquent et ses ceintures larges, ou quand il joue les justiciers avec son masque, sa cape et son épée.
Bon, et quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ils le reconnaissent jamais? Il a juste
c'est le mystère.
Une connerie de masque sur le nez et personne ne le reconnaît à sa voix, enfin.
Mais même chose avec Superman.
Mais oui,
c'est juste une paire de lunettes.
Voilà. Alors ce qui m'a toujours fait rire, c'était vainqueur, tu l'es à chaque fois. Et moi, j'étais persuadé, tue-les. Il va tous les tuer, comme Gainsbourg avec Sefero, ce soldat. Il a toujours cru que c'était le soldat s'appelait Sefero.
C'est une forme d'idéal pour vous, Zorro, faire le bien en restant caché comme ça?
Ah bah, Amélie signait d'un Z, d'ailleurs, sur la porte. C'est un plan que j'ai toujours détesté, que j'ai toujours voulu couper.
C'est vrai?
J'ai un de mes regrets.
De ne pas avoir coupé le
Z
d'Amélie?
Non, c'est mon monteur qui m'a dit, mais si, c'est rigolo. Et à chaque fois, je revois, je dis, oh, il avait tort, j'aurais bien coupé.
Et vous ne répondez pas à ma question, donc faire le bien en restant caché?
Et bah, ça, c'est exactement la définition d'Amélie. Et je pense que c'est la raison du succès, pour pas dire du triomphe d'Amélie, c'est que ça touche tout le monde, quoi. On voit bien que l'espèce humaine la pire saloperie qui existe sur Terre, mais pourtant chaque être humain a quelque chose d'Amélie, quelque chose de bon. On le voit là, le petit garçon dans le trou là au Mexique, c'est ça. Tout le monde était bouleversé, quoi. Au Maroc, pardon. Tout le monde est bouleversé. On a tous un petit côté Amélie en nous.
Mais tout le monde rêve de faire du Solex avec Mathieu Kassovitz, hein, surtout.
Ça, je sais. Moi.
Jean-Pierre, il est presque 17h et ça tombe bien parce que votre chanson du moment, c'est « Il est 5h, Paris s'éveille » de Jacques Dutronc et Jacques Lanzmann. Il y a des choses qui ne prennent jamais une ride, comme
alors,
cette chanson-là par exemple.
C'est le Paris fantasmé pour moi, quand j'étais gamin, que je rêvais d'aller à Paris, où j'avais vu, j'étais passé très brièvement, et tout était dans la chanson de Lanzmann Dutronc.
Et vous la réécoutez souvent celle-là?
Ah mais souvent, oui, oui. Et puis, vous savez, ça, je viens de découvrir que le solo de flûte, derrière, a été improvisé en une seule prise. Je ne savais pas ça du tout.
Vous allez me dire le nom du flûtiste, c'est Tango
Viette. Et c'est un flûtiste qui, en fait, répétait dans un studio voisin un truc classique, du classique. Mmh. Ils l'auront demandé parce qu'il manquait un petit truc pour que la chanson soit bien. Le mec, il l'a regardé. En une prise, il a fait ça. Incroyable, non?
Eh ben, on va réécouter ça et voir ce que ça donne, ce fameux solo de flûte en une prise. Jacques Dutronc, il est 5h.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Jacques Dutronc, Paris s'éveille et justice est donc enfin rendue au flûtiste.
Oui, c'est beau hein, quand même.
Qui s'appelait Roger Bourdin.
C'est, pour moi, c'est Antoine Douanel, c'est Brassailles, c'est Douaneau, c'est le Paris en noir et blanc.
Mais c'est vrai maintenant que j'ai réécouté cette chanson grâce à vous d'une oreille neuve, hein, en me concentrant sur la flûte, c'est vrai qu'elle est c'est assez incroyable ce qui se passe avec cette flûte.
Je réalise que tout ça, c'est quand même des goûts de vieux cons. Un peu.
On s'en fout, on s'en fout. Jeune con, vieux con, de toute façon, on est toujours con.
Voilà.
On est d'accord ?
Oui.
Bon, okay. Merci infiniment, mon cher Jean-Pierre, d'être venu nous parler.
C'était un plaisir.
Et comme je sais que vous vous souvenez et que nous nous intéressons à vos souvenirs, parce que ce que vos souvenirs constituent le Jean-Pierre qui est aujourd'hui qu'on retrouve dans Big Bug, mais il y a ce petit livre qui est sorti l'année dernière, le livre de souvenirs justement, qui s'appelle Je me souviens, aux éditions Leitmotiv.
Je me souviens, 500 anecdotes de tournage, en fait, il y en a plus.
Ouais.
Édité par mon frère, Leitmotiv, vous trouverez ça sur Internet. En fait, plutôt que de faire une biographie lourde et pesante, c'est des petites Smarties, des petites pastilles qui se consomment. Vous ouvrez au petit déjeuner, vous en consommez au hasard 5-6. Mmh. Voilà, c'est la prescription.
La prescription du docteur Jean-Pierre Genet et la prescription du docteur Popopop, eh bien, c'est ce Big Bug que vous pourrez voir dès demain sur Netflix. Merci Jean-Pierre une fois de plus
merci
de nous avoir rendu visite. Et merci Charline.
Merci à vous.
À demain. Et merci à toute l'équipe de Popopop et à Arnaud Caillet qui était à la technique aujourd'hui. Demain, un nouveau numéro de Popopop Podcast avec Martin Solveig qui lâche ses platines pour venir nous raconter des histoires à nous et à nos enfants. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Popopop.